Salut à toi et bienvenue sur le podcast DaxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti.
When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control.
Salut à tous et bienvenue dans notre podcast DaxOpen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit focus sur un des sujets qu'on... Merci Arthur de péter mon intro en toussant là au fond de la salle, c'est super. Je vais pas la recommencer, on va enchaîner quand même comme ça. Donc on va faire un focus sur un de nos sujets favoris chez DaxOpen, la qualité de code. On en a déjà parlé à travers pas mal de podcasts, mais en fait on a pas mal travaillé le sujet en faisant un petit dossier ces trois derniers mois sur tout ça. Donc l'idée c'est de refaire un petit peu un point, d'expliquer un peu qu'est-ce que la qualité de code, qu'est-ce qui cache derrière tout ce qui est clean code, pourquoi c'est important. On va parler un peu bonne pratique et tout ça. Autour de la table, j'ai avec moi les trois fidèles. Là, j'ai Philippe,
le JavaScript lover.
Arthur, le JavaScript lover.
Bonjour. Attends, faut que je tousse ces petits trucs là. Je refais un bonjour. Bonjour.
Nathan.
Hello.
On va démarrer. Philippe, et si tu peux nous faire ton petit traditionnel point historique en disant comment a évolué justement le code concrètement ces dernières années. C'est le moment historique.
Alors en fait, on est allé vers une abstraction de plus en plus grande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'expressivité à la ligne de code, c'est fortement apprécié ces dernières années. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'historiquement, quand on faisait une ligne de code dans les années 80-90, elle faisait pas grand-chose. Et aujourd'hui, quand vous faites une ligne de code avec nos frameworks actuels et toutes nos librairies, elle fait des choses extraordinaires. Historiquement, vous pouviez lire en mémoire une information et aujourd'hui, vous pouvez littéralement instancier un appel à un satellite sur une plateforme type AWS. Donc, ça veut dire qu'à la ligne de code, ce qu'on peut exprimer est de plus en plus important et de plus en plus grand.
Aujourd'hui, on est un peu à l'apogée de ça.
On sait jamais.
On espère pas.
Alors après, on pourrait imaginer de la métaprogrammation avec une instruction qui irait faire de la programmation. Mais en tout cas, oui, on est toujours dans une abstraction qui devient de plus en plus grande.
Ok, et ça pousse quelle problématique en fait derrière ? Parce que j'imagine.
Alors, ça pousse effectivement des problématiques de plus en plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé si on prend l'historique de la vie d'un développeur ? En fait, on paye un développeur pour qu'il soit de plus en plus productif. Et quand on dit qu'il soit de plus en plus productif, on a mis le focus sur ce que je disais, sur qu'à la ligne de code, ce que fait le développeur, ça fasse de plus en plus de choses. D'accord ? Et du coup, en mettant le focus sur cette amélioration de l'abstraction, de la productivité, en fait, qu'est-ce qu'on a dit ? On a moins mis le focus sur le fait que la ligne de code soit le plus sécure. On comprend bien que si vous êtes capable de faire décoller un avion en une ligne de code, la responsabilité que vous avez, elle est beaucoup plus grande que quand vous faisiez juste une lecture mémoire toute basique. Et donc vient le problème majeur, c'est que pendant de nombreuses années, on a mis l'accélérateur sur la productivité et non pas du tout sur la qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des applications qui ont presque autant de bugs finalement que des applications des années 90, 2000, tout ce que vous avez connu. Et c'est là que souvent on a la réflexion des clients qui nous disent vous faites autant de bugs malgré tous les outils que vous avez mis en place que ce que vous faisiez dans les années 2000 ou 90.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, effectivement, qui est plus montré, touché du doigt par les clients qu'effectivement, il y a 5-6 ans
Alors, c'est dur à dire. L'agacement des clients, c'est toujours le même. C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'avec tout l'argent que je mette dans l'informatique, j'ai autant de bugs pour faire un formulaire en 2024 que j'en avais dans les années 2000. Et en fait, c'est un questionnement qui est très, très justifié de leur part. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en tant que développeur, on a beaucoup moins de temps à consacrer pour faire des choses. Et en fait, ce qu'on nous demande de faire est de plus en plus important, ramené au temps. Donc du coup, finalement, le temps qui est consacré vraiment à la qualité est très, très faible dans les équipes de développement aujourd'hui. Et c'est une problématique qui a toujours été importante et qui est difficile forcément à faire toucher du doigt aux développeurs, aux équipes de développement et à la fois aux porteurs de projets, aux product owners, chefs de projet là-dessus.
Parce que quand on parle vraiment qualité de code et pourquoi c'est important, enfin, on met quoi derrière ça en fait ?
Alors, encore une fois, c'est un thème qui est très très vaste, hein, c'est un peu comme les sujets de la performance, mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière le terme de qualité ? En fait, la qualité de la part de la vision d'un client, c'est ça bug pas. D'accord ? De la part d'un développeur, ça peut être c'est élégant. Le code est élégant, il est codé avec le moins de lignes, il est performant, Ça peut être aussi sa résistance aux bugs, ça peut être son accessibilité, ça peut être sa capacité à être maintenue dans le temps. Ça peut être, c'est très protéiforme, le terme de qualité. Et donc, du coup, c'est un terme sur lequel on n'est pas tous d'accord quand on parle de qualité sur qu'est-ce que c'est qu'un bon code. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et ça fera tout l'objet de ce podcast, que c'est pas un sujet si simple que ça de dire, la qualité de mon code est bonne ou elle est pas bonne.
Bah, par exemple, pour toi, c'est quoi un code qualitatif ?
Alors moi, même pour moi, ça a évolué au cours des années, ma notion de qualité de code.
T'es plus d'accord avec
toi-même ? Ouais, je suis plus d'accord avec moi-même. Quand on débute l'informatique, je pense qu'on a la notion de qualité de code, c'est un code ultra performant. Alors, un code magnifique, ultra performant.
Mais qui concis s'exécute. Aussi.
Concis.
Au début, on aime bien faire des choses rapidement et
rapide,
en moins de lignes.
En moins de lignes, ce qu'on pourrait appeler élégant. En fait, je m'aperçois avec le temps et ma notion de qualité de code évolue. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, un code que je trouve un bon code, c'est un code qu'on soit capable, et j'aime bien cette expression-là, de léguer à nos enfants et qu'ils soient capables de maintenir. C'est-à-dire que la qualité de ce que je produis aujourd'hui soit capable d'être maintenue par des équipes sur le très long terme. D'accord ? Et ça n'a rien à voir avec la qualité de code qu'on pourra penser de manière élégante et performante. Parce que si je veux faire un code hyper performant, je vais le compiler très très bas niveau, je vais le complexifier avec des algos assez complexes, mais en fait, je vais dégrader la capacité de ce code à être maintenu dans le temps parce que trop compliqué. Donc aujourd'hui, moi, la notion de qualité de code, et je pense que même Arthur ou Nathan, on n'a pas forcément la même vision de ce que c'est qu'un code de bonne qualité.
Ouais, j'allais dire, le Nathan, monsieur propre du code, il en pense quoi?
C'est son credo quand même.
Les corps incarnés.
En vrai, je suis assez d'accord avec Philippe dans le sens où j'étais beaucoup axé sur la performance avant. Ça ne me dérangeait pas d'écrire deux fois plus de lignes de code si je gagnais 2 millisecondes sur mon exécution. Mais la vérité étant que, en fait, on s'en fout un peu. Et que ce qui est particulièrement intéressant, c'est de faire le meilleur compromis entre la performance et un code qui va être facilement compréhensible et utilisable par les autres. Et il y a pas mal de notions dans la qualité de code où on parle du code en lui-même. Mais bien souvent, on travaille en équipe et faire un code qu'on serait content de relire comme étant pas le nôtre est, je pense, aussi une grande part de la qualité du code. Et du coup, pour moi, la qualité de code, c'est être capable de mettre le curseur au bon endroit entre avoir une bonne performance, un code qui va être facilement lisible, modifiable et tout ça. Et c'est pour ça que c'est un peu propre à chaque développeur sur le moment. Et il y a beaucoup de passages lorsqu'on fait des formations de se dire c'est pour ça que c'est un humain qui le code, c'est que c'est à toi de déterminer où est-ce que tu vas mettre ton curseur et là où il te paraît être pertinent d'être.
Mais ça doit pas être simple.
En soi, il y a beaucoup de mots pour dire pas grand-chose. C'est juste de la façon dont on voit les choses et comment on vit sur le projet, de se dire... il y a plein d'informations à prendre en compte et c'est pour ça que c'est beaucoup du feeling aussi.
Arthur, tu partages ou toi,
j'accorde beaucoup d'attention à la lisibilité du code, que ce soit facilement compréhensible par quelqu'un d'autre. Script,
comme déjà, quoi, ils n'ont pas l'habitude de faire un code maintenable.
si, maintenant, c'est pas vrai. Non, mais oui, c'est vraiment la partie compréhension du code, que quelqu'un d'autre, comme disait Nathan, puisse le relire, ou que moi, si jamais je retombais dessus, que je le recomprenne facilement, et que je me dise pas, mais qu'est-ce que j'avais voulu dire par ça il y a 10 ans. Donc ça revient aussi à la maintenabilité, mais c'est vraiment, moi, je préfère faire un code plus clair et plus facilement lisible, même si il faut écrire beaucoup plus de lignes, parce qu'au final, sur le long terme, je pense que ce sera plus pratique à maintenir et ce sera plus simple pour quelqu'un qui arrive et qui n'a pas du tout la connaissance de réussir à comprendre tout de suite ce qu'on veut faire que de vraiment se focaliser sur le moins de lignes, le plus performant et d'autres choses qui peuvent impacter la lisibilité du code.
Quand on regarde un petit peu tout ce qui est effectivement tout ce qui tourne autour de la qualité de code, on tombe souvent sur le terme clean code. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce qu'on est en différence avec ce qu'on vient de se dire là ou...
Non, pour moi, j'aurais envie de dire c'est une sorte de guideline un peu dans la qualité de code. Genre, ça fait pas tout, mais en fait, il y a différents aspects qui sont prônés par cette définition de clean code. De mémoire, c'est beaucoup Sonar qui l'apporte et qui la met en valeur. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent la lisibilité du code et au fait qu'il va être relu et qu'il va être maintenu dans le temps. De mémoire, quand j'avais un peu regardé la définition, il y avait un truc que je m'étais dit qui ressortait beaucoup, c'était leur objectif, c'est pas vraiment de coder pour que ça fonctionne, mais de coder pour que les autres soient contents de comment tu l'as fait. Et il y a beaucoup de principes qui sont présents et mis en évidence de se dire, vraiment, on travaille en équipe et le code que je vais faire, il va s'orchestrer le mieux dans le projet, il va le mieux s'intégrer et il va être facilement réutilisable par les autres, facilement compréhensible. Il va avoir les mêmes pratiques en termes de linter, de formalisme du code. Il va avoir également des commentaires, ce genre de choses. Et pour moi, c'est vraiment toutes ces notions-là qui sont beaucoup reprises par le clean code et qui sont mises en évidence.
Ok, mais du coup, c'est plus une espèce de philosophie que quelque chose de complètement palpable, quoi.
Je pense qu'après, il y a des actions palpables qu'on peut mettre associées à ces concepts, mais c'est vrai qu'il y a, pour le coup, actuellement, c'est beaucoup des phases de réflexion, et je pense qu'eux, ils souhaitent beaucoup l'apporter à travers leur outil Sonar, et je pense que de mémoire, on voit justement cette notion de clean code de plus en plus présente dans leur outil, et leur objectif, je pense, c'est de nous faire adopter cette philosophie.
Sonar, si tu peux juste...
Sonar, c'est un outil d'analyse statique de code qui a pour objectif d'avoir, de remonter les potentielles erreurs et issues, que ce soit sur des bugs ou des mauvaises pratiques de code. Il y a également une partie sur la sécurité de mémoire. Et l'objectif, c'est d'avoir une analyse du projet sur principalement ses faiblesses et ce qui peut être amené à être modifié pour avoir du coup une bonne qualité de code. C'est un peu un gros standard dans le marché quand on parle de qualité de code.
On va y revenir après, je pense qu'on en reparlera, mais si on se focus un peu sur concrètement comment est-ce que vous faites au sein des projets, comment est-ce qu'on aborde cette notion justement de qualité de code? On parle de quality gates ou autre chose. Comment est-ce que vous faites concrètement?
Alors, je vais expliquer la notion de quality gate et puis j'expliquerai un petit peu ce qu'on peut faire. Sachant que, personnellement, ce que je vais expliquer là, pour moi, c'est pas du tout la panacée de ce qu'on peut faire. Mais, en tout cas, c'est ce qui est communément admis comme étant une bonne pratique. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, les quality gates, c'est la manière de quantifier la qualité de code. Quand je dis quantifier, ça veut dire, en gros, de donner une pesée sur est-ce que mon code, il est bien ou mal fait. En gros, c'est des indicateurs qui sont souvent remontés par Sonar, mais ça pourrait être d'autres outils, qui vont analyser statiquement le code et vous dire, voici le nombre d'erreurs que vous avez par rapport à la norme que vous avez donnée. Si, par exemple, vous avez dit que l'accolade, elle doit se mettre à côté du if ou en dessous du if, il va vous faire une erreur par rapport à ça. Ou si vous allez utiliser, par exemple, un objet en Java de la mauvaise manière, il va vous faire une erreur là-dessus et que vous êtes obligé de corriger et il va vous quantifier ça. Donc en gros, quand vous avez analysé votre code de manière statique avec un outil comme Sonar, vous allez avoir un ensemble d'erreurs qui va classer comme critique, majeure, bloquante, mineure, de différentes catégories. Et la quality gate, c'est l'ensemble, enfin c'est la perméabilité que vous accordez par rapport à ces règles-là. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est que vous aurez toujours des problèmes sur votre code. Donc, en gros, à partir de quel moment vous considérez que votre code est acceptable? Et la quality gate, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, se dire, par rapport à ces indicateurs quantitatifs que j'ai définis, à partir de quand je considère que mon code est bon, il passe la quality gate, ou à partir de quand je considère qu'il est mauvais, et auquel cas, il faut que j'aille voir mes équipes de développement pour aller venir corriger ça. Voilà, en gros, c'est ça, la quality gate. Après, moi, à titre très personnel, je pense que c'est un peu une voiture balai. C'est une manière de dire, oui, ça récupère un nombre de trucs évidents. Ça permet de mettre tout le monde d'accord sur le style de comment on va écrire le code et les bugs faciles. Mais en tout cas, ça n'est absolument pas la panacée. Pourquoi? On va venir vraiment aux limites de ces outils-là. C'est que déjà, d'une, il analyse le code en statique. C'est-à-dire, en fait, il ne comprend pas ce que fait le code ou il le comprend très marginalement. Et donc, du coup, vous allez avoir un travers qui est très, très fort chez les développeurs. C'est-à-dire, en fait, de faire en sorte qu'ils passent la quality gate. Et pour faire passer les quality gate, vous pouvez le faire de manière très, très stupide. C'est-à-dire, vous pouvez apporter des correctifs complètement stupides au code pour qu'il passe la quality gate.
Juste pour avoir la note.
Juste pour avoir la note, voilà. Vous allez mettre des commentaires et en gros, il va vous dire, par exemple, si vous n'avez pas de commentaire sur une méthode, il va vous dire c'est pas bien. Et du coup, tu peux mettre un commentaire, dire c'est ma méthode. Voilà. Et ça va passer la quality gate. Parce que Sonar, il comprend pas le concept de commentaire. Mais par contre, c'est un truc que les gens aiment bien parce que comme c'est métrique et aujourd'hui, on est dans un monde de la data, on est super content d'avoir des notes. Et ça, c'est un truc qui nous rassure intellectuellement. Ça rassure le client, ça rassure tout le monde. Et en fait, moi, personnellement, je trouve que ça sert quasiment à que dalle.
Nathan, Arthur?
Ça permet d'éviter les erreurs bêtes, entre guillemets, quand on fait un audit où c'est un humain qui va lire le code. C'est vrai qu'il y a plein de choses dont on peut, entre guillemets, ne pas faire attention parce qu'on sait que Sonar va y faire attention. Et ça permet aussi, pendant les développements, de ne pas avoir des erreurs bêtes qui sont très facilement identifiables par Sonar, comme des choses, des flux qui ne sont pas fermés, des choses qui sont vraiment... Qui ne prennent pas en compte le contexte. Juste, si ton flux n'est pas fermé, ça peut créer des bugs, donc tu dois le fermer. Et des choses comme ça. Et ça permet aussi d'avoir une homogénéité dans le code. Comme disait Philippe, s'assurer que tout le monde mette bien la collade au bon endroit. Ça permet que s'il y a 12 développeurs dans le projet, on ne se retrouve pas avec la moitié des classes qui ressemblent à pas l'autre moitié des classes. Et ça apporte une homogénéité. Mais oui, ça ne permet pas de faire du code intelligent, ça fait du code homogène.
Homogène, oui.
Mais surtout, en fait, ce qu'on expliquait tout à l'heure, de dire que la qualité de code est un peu propre à chacun, et c'est un peu un curseur que chacun positionne à un endroit, étant donné que c'est une machine qui fait l'analyse, en fait, elle n'aura pas toute cette prise en compte des différents paramètres, du contexte, de tout ce qui a été fait. Et en fait, il y aura juste un rapport qui va être très logique et qui ne va pas prendre en compte le contexte. C'est que deux projets qui sont codés exactement pareil auront la même note, alors que potentiellement, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes attentes.
Moi, si je peux faire un parallèle pour les gens qui n'ont jamais vu cet outil, je vais faire un parallèle avec le français. En fait, si vous écrivez, par exemple, si on est tous les trois à écrire un roman et que vous le soumettez à un outil type d'analyse statique, en fait, il va vous corriger toutes les fautes d'orthographe et la ponctuation et la syntaxe. Et vous allez vous dire, c'est bien. Donc, ça améliore les choses.
Mon roman est super.
Par contre, ça ne veut pas dire que le roman de Nathan, il n'est pas mieux que le roman d'Arthur. Probablement que d'ailleurs Nathan écrit mieux qu'Arthur.
Je pense aussi.
En gros, ça ne dit rien sur la qualité intrinsèque de l'objet qu'il est en train d'étudier.
Et une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que vous, dans vos projets, vous mettez en place du coup ce genre de choses quand même ?
Oui, on le met parce que déjà c'est une bonne pratique de marché et que ça permet essentiellement aux jeunes développeurs d'apprendre des choses de manière un peu transparente. Donc oui, on l'utilise, mais c'est clairement pas la panacée pour faire de la qualité de code.
Après, même, je dirais, quand même, il a une grande utilité pour le coup. Genre, il ne va pas faire toute la qualité de code, mais les retours qui nous remontent une fois bien configurés, en fait, on passe à côté, enfin, on évite de passer à côté justement de plein de petites erreurs qu'on peut faire. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un bon agent qui vérifie qu'il y a plein de trucs qui se passent bien, mais pourtant, il y a quand même un gros travail à côté à faire pour vraiment avoir une bonne qualité de code.
Parce que vous disiez tout à l'heure que, effectivement, qu'en gros, il n'est pas assez. Des termes d'intelligence pour comprendre le contexte et faire vraiment des bons retours. Avec, alors on va parler du sujet trendy, mais avec tout ce qui est IA, etc., est-ce que ça peut rebattre potentiellement les cartes de ces outils-là sur la qualité ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre un peu mieux ou pas ?
Il faut comprendre déjà, c'est de l'analyse statique. C'est-à-dire, qui dit statique dit que ça n'est pas exécuté. Donc ça veut dire que déjà, il n'aura jamais le contexte d'exécution et du coup, il ne peut pas comprendre intrinsèquement si le code est performant ou pas performant, au-delà de certaines choses très basiques. Donc l'IA, elle ne va pas t'apporter grand-chose de soi. Elle va pas t'apporter. Elle peut t'apporter des choses parce qu'elle peut comprendre le concept de classe et probablement qu'à terme, ils arriveront à comprendre le concept de multiclasse et d'arriver à faire quelque chose qui permette d'améliorer un peu les algorithmes et de le comprendre. Mais il ne fera jamais ce que fait un humain, en tout cas dans une vision court-termiste. Parce qu'en fait, un humain, il est capable de changer complètement son point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, une machine, une IA, tu peux lui demander est-ce que cet algo, il est bien optimisé ? Et elle va probablement pouvoir te répondre à terme. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais elle pourra répondre à terme de dire non. Oui, on peut l'améliorer comme ça. Mais un humain, il est capable de dire en fait, je pense que je vais pas utiliser cet algo parce que je vais faire complètement autre chose. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça sait pas faire. Et vous prenez ChatGPT, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, il sait pas changer de contexte. Et en fait, souvent, quand vous allez aider un jeune développeur, il essaye de faire quelque chose, et une IA pourrait l'aider à faire ce quelque chose, mais en fait, en tant qu'expert, vous arrivez à côté de lui, vous lui demandez ce qu'il fait, et vous dites, ouais, mais en fait, pourquoi tu fais ça ? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on peut faire complètement autrement. Et en fait, c'est là où, moi, je trouve que l'humain est primordial dans la qualité de code, c'est qu'en fait, il est capable de challenger même le concept même de la chose qui est en train d'être réalisée.
Je pense que même en plus de ça, alors je sais que moi, un de mes indicateurs, c'est lorsque je lis du code, si je ne le comprends pas, je me dis potentiellement, il y a peut-être un truc qui aurait pu être fait différemment. Mmh. Alors que cette jauge de se dire, si un autre humain qui relit ton code n'est pas capable de le comprendre, potentiellement, c'est qu'il n'a pas été pensé suffisamment bien pour que ce soit facilement relisible. Alors qu'une IA ne va jamais pouvoir dire, un humain ne va pas comprendre.
Qu'est-ce que vous conseillez du coup au sein même concrètement des projets ? C'est plutôt d'avoir de la proximité humaine, d'avoir peut-être des audits de code aussi ? Qui peuvent être faits
Alors moi, je suis un fervent défenseur de l'audit de code et de l'approche humaine parce que justement, quand on regarde le code à côté du développeur, on comprend la manière dont il a de penser les choses. Et donc, du coup, on est capable de challenger la conception même des choses. Et c'est vrai que quand on fait la relecture de code, c'est hyper dur de challenger ce qui est fait. Parce qu'en fait, vous avez tendance à être happé par la solution qui vous a été apportée, voire à améliorer la solution, mais des fois, vous avez beaucoup de mal à vous dire, en fait, c'est complètement stupide. Et je reprends l'exemple de Nathan. Moi, souvent, quand je lis un code que je ne comprends pas, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, j'aurais fait comment, moi, pour résoudre ce problème ? Et je m'aperçois que, du coup, ce qui est écrit, c'est complètement con. Mais c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Hein, c'est... Et j'utilise le terme, c'est que si tu ne comprends pas le code qui est écrit, c'est soit que le gars est un génie, ce qui est toujours possible, soit que c'est complètement con. Et en fait, c'est souvent...
C'est souvent quoi ?
C'est souvent complètement con, ce qui est écrit.
On ne citera pas de nom.
Non.
Et de toute manière, si tu n'arrives pas à le comprendre, si un ingénieur de 10 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience n'arrive pas à le relire, c'est que ce code, il est à chier.
Aujourd'hui, les développeurs que vous avez dans vos équipes, ils sont sensibilisés à ces notions un petit peu de qualité, tout ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est...
J'essaye justement d'en parler beaucoup et de très vite leur expliquer que y a toute une notion d'humain sur la qualité de code et la qualité du travail, et qu'il n'y a pas juste des critères de ce que j'ai fait fonctionne. Ça, c'est vraiment, je pense, la phrase qui m'énerve le plus de « mais ça fonctionne ».
Mais encore souvent, c'est pas vrai parce qu'ils testent pas vraiment, vraiment.
Ouais, mais je sais que moi, personnellement, dans les équipes, j'essaie de rapidement le mettre en compte, et notamment parce que quand tu vas venir challenger leur idée, bah, t'as besoin de la justifier un petit peu. Et au moment où tu vas la justifier, tu vas leur expliquer, bah, en fait, il fallait prendre ça en compte, etc. En fait, plus tard, si tu vas l'utiliser, ce sera plus simple. Et je pense que c'est beaucoup sur lorsqu'on va aider qu'on va beaucoup former sur ces notions-là. Et je sais qu'il y a aussi une autre partie où on fait beaucoup de relectures de merge requests croisées entre les équipes. Et c'est aussi, je pense, une des bonnes pratiques, si elle est bien faite, pour augmenter la qualité de code du projet, parce qu'en fait, une autre personne va relire ce que tu as fait. Implicitement, quand tu travailles, tu dis, bah, attention, quelqu'un d'autre va relire, du coup, tu vas dire, bah, faut que je fasse quelque chose bien.
La peur fonctionne bien.
La peur du regard de l'autre.
Non, mais c'est vrai, c'est un truc humain, c'est-à-dire qu'en fait, si tu sais que ton travail va être relu par un autre être humain,
bah, t'as envie de faire bien.
T'as envie de faire bien.
Et du coup, voilà, le fait que quelqu'un d'autre va relire ce que tu as fait pour le challenger en disant, bah, moi, j'ai pas compris ce que tu as fait, etc. Bah, potentiellement, c'est là où petit à petit, on va pouvoir augmenter la qualité de code au fur et à mesure au sein du projet.
Et si est-ce qu'on peut donner peut-être 2-3 conseils aux développeurs qui sont peut-être un peu plus juniors, qui n'ont pas trop les questions de qualité de code en tête pour l'instant?
Moi, je pense que la première chose qu'il faut dire à un développeur jeune, c'est sois humble. C'est-à-dire, en fait, souvent, ils ont tendance à être un peu à prendre le reproche de manière très très personnelle, en mode oui, mais ce que j'ai écrit, c'est super, et du coup, quand on a un droit de regard dessus, ça les vexe. En fait, faut se dire que le code que tu produis, c'est un asset de l'entreprise, ça t'appartient pas particulièrement, et donc du coup, être ouvert aux reproches. Parce que souvent, en fait, ce que dit Nathan et ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas forcément que c'est nul ce qui a été écrit, c'est juste que ça prend pas en compte tout un tas d'autres facteurs, et tout un tas d'autres facteurs qui sont pertinents. Et quand on est jeune développeur, le facteur qu'on estime le plus pertinent, c'est faut que ça marche parce que j'ai envie de livrer la fonctionnalité. Or, les autres facteurs qui sont la performance, l'accessibilité, la maintenabilité, la lisibilité, tous ces trucs-là, c'est pas des choses qu'on a forcément en tête parce qu'on essaie déjà de maîtriser son propre métier. Donc, la première chose pour un développeur, c'est être à l'écoute de ce que les autres te disent en te disant que c'est pas forcément stupide. Enfin, c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est d'aller regarder dans tout ce qui se fait et d'être curieux sur les bonnes pratiques de code. Moi, quand j'apprenais à coder, et j'invite toujours à le faire, c'est taper les 10 erreurs les plus fréquentes de votre langage de programmation ou de votre framework. Il y a toujours 10 articles qui existent sur ce sujet-là, et d'apprendre les 10 erreurs, parce qu'en fait, 99% des problèmes, c'est les 10 mêmes erreurs. Et du coup, ça, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nathan, mais, ou Arthur, mais moi, je pense que c'est des choses très, très simples à mettre en place et qui devraient être le basique du basique.
Je suis assez d'accord avec la partie être curieux. Et je sais que je recommande souvent aussi d'aller voir les projets open source des différentes technologies qu'on utilise, parce qu'en fait, c'est souvent des projets qui sont faits à côté ou des personnes qui ont vraiment le temps. Et en fait, c'est là où la qualité de code est, j'ai envie de dire, la plus élevée, parce qu'ils prennent le temps de faire les choses, et si jamais ce n'est pas comme ils veulent, ils ne le font pas. Et en fait, c'est là où on va pouvoir réussir à se poser et comprendre un peu la problématique de la personne qui a fait le code et vraiment bien progresser, même sur des nouvelles techniques. Et le fait de voir plein de façons de faire différentes fait qu'après, on va pouvoir choisir la bonne quand on va coder.
Moi, ce que je trouve qui est aussi très important, c'est que quand on fait du code, il faut aussi se dire, est-ce que je vais être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre et de justifier mes choix ? Si vous avez quelqu'un qui vient relire votre code, qui vient faire une MR et qui vous demande pourquoi vous avez fait ça, et vous êtes incapable de dire pourquoi, de dire parce que, par exemple, là, il faut que ça fasse ça en plus, donc j'ai fait ça comme ça, et de pouvoir justifier les choix que vous avez faits, c'est qu'il y a un problème dans la conception. Et à partir du moment où il y a un problème dans la conception, le code, il sera forcément bancal, et au bout d'un moment, ça va se répercuter sur tout le reste. Donc, c'est très important de faire les choses pour que ce soit solide, de la base soit solide, et après... vous pouvez vous assurer que ce soit bien fait, mais le fait d'avoir quelque chose de bien imaginé et de bien fait, c'est le plus important, je trouve.
Et je trouve que sur la partie compréhension du code et explication, il y a toute une partie qui sont liées aux commentaires. Et personnellement, genre, quand on m'avait appris les commentaires, j'ai envie de dire, à l'école, sur leur utilisation, je trouve qu'on est vraiment passé à côté du sujet. C'était beaucoup de commenter les getter setter à base de getName, etc. Et en fait, ça n'a vraiment aucune plus-value. Et pour moi, il y a vraiment deux types de commentaires qui ont un intérêt. C'est le premier qui va permettre d'expliquer à une personne comment utiliser le code qu'on est en train d'écrire. Donc des petites indications pour faciliter la vie. Et le deuxième, c'est de celui qui va répondre à la question de pourquoi. Parce qu'en fait, quand on lit du code, on sait tous le lire, on sait tous ce qu'il fait, mais on ne sait pas toujours pourquoi on a fait ça comme ça. Et c'est vraiment pour moi la seule réponse à laquelle le commentaire doit apporter. Enfin, c'est la seule réponse à la question auquel le commentaire doit répondre. Je ne vais pas y arriver. Je pense que vous avez compris. Mais globalement, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on a fait ça comme ça, parce qu'à chaque fois, on a toujours 15 façons de faire les choses, et justifier son choix en disant « j'ai pris ça en compte », etc. Ce qui fait que lorsque la personne va le relire, il va avoir une explication, déjà, il va comprendre que la personne a réfléchi au problème, et en plus, on va pouvoir avoir et potentiellement être d'accord avec la solution que la personne a choisie, parce qu'en fait, on a tout le contexte.
Et moi, je pousse avec ce que tu dis, et je rajouterais que le commentaire ne sert à rien dans un code. 99% du temps, le code, s'il est bien écrit, il est lisible. Donc, expliquer ce que fait le code, ça sert à que dalle, parce que quelqu'un qui sait lire le code, il le lit, et le commentaire, il a plus de chances d'être faux par rapport au code. Par contre, effectivement, moi, je ne mets des commentaires dans mon code que quand c'est pas logique ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est l'exception. C'est-à-dire que je mets un commentaire dans un cas exceptionnel de ce code-là, il fait quelque chose, ça paraît pas évident ce qu'il fait, et je l'ai fait parce que j'avais un certain nombre de contraintes que je cite dans le commentaire. Donc moi, je suis plutôt pour mettre des commentaires de manière exceptionnelle dans le code que de manière systématique, avec des commentaires qui ont une vraie plus-value de dire « je fais ça souvent parce que j'ai pas le choix, globalement ». Parce que sinon, le code naturellement bien écrit, il se lit. Il se lit comme on lit du français, et on n'a pas besoin d'avoir un commentaire qui m'explique ce que dit le texte en français.
Il y a beaucoup de livres avec beaucoup de notes de bas de page. Hein.
Ouais.
C'est un peu pareil que les commentaires, au final.
Si on va un poil plus loin pour finaliser un petit peu ce sujet, au-delà du dev, si on se positionne un peu partie ops, partie DevOps, est-ce que finalement c'est une surcouche supplémentaire qui peut permettre d'apporter une meilleure qualité?
Alors, tu veux le faire, Nathan?
Non, vas-y, t'étais parti.
Non, je dis tout ce qui tourne autour du DevOps, pour les gens qui nous écoutent, c'est du moment que mon code est écrit, qu'est-ce qui va se passer derrière la compilation, le testing, la qualité de code, la livraison, c'est tous ces trucs-là. Le vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité, tout ça. Moi, je pense que c'est un peu un encart sur une jambe de bois. Dans les années 2000, on n'avait pas ça et on faisait autant de bugs, pas plus, pas moins. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit la panacée. Néanmoins, comme on l'a dit ici, c'est tout ce qui tourne autour de Sonar, ce genre d'outils, les testing automatiques, ça apporte un plus. Mais ne croyez pas que parce que vous avez une chaîne DevOps bien construite, vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité de code. C'est plutôt une voiture balai, à mon avis, que quoi que ce soit d'autre.
Nathan, tu partages
C'était exactement ce que j'allais dire.
Ça reste le développeur qui fait le code. Donc, ouais. C'est pas parce que vous avez une chaîne automatisée très bien faite que le développeur, il va mieux coder son code.
Si on te place un peu côté... alors, on parlait beaucoup de qualité, effectivement. Est-ce que ça a un impact sur les coûts des projets? Et si oui, dans la durée aussi, comment est-ce qu'on mesure un petit peu ça? Parce qu'aujourd'hui, admettons, on se dit, tiens, on va reprendre un projet, il est un peu bancal et tout. Est-ce que travailler ça, finalement, ça a un coût sur l'instant? Est-ce qu'il y a un coût moyen, long terme?
Alors, c'est pas évident de répondre à cette question. C'est vraiment pas évident de répondre à cette question parce qu'il faut répondre d'abord à la question de qu'est-ce que c'est qu'un code de bonne qualité. Et en fait, on voit bien quand on a discuté que c'était pas si évident que ça de le définir. Je pense que c'est aussi en regard de la durée de vie de l'application. C'est-à-dire en gros, si vous êtes sur une application, ce que je vais appeler jetable, une application qui a 5-7 ans de durée de vie, là, investir massivement dans la qualité de code, ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de technologies qui n'ont pas une durée de vie de plus de 5 ans. Je prends par exemple les frameworks web. Souvent, au bout de 3 ans, votre framework n'est pas compatible ou il n'est plus compatible. Là, j'ai encore un client la semaine dernière qui était sur Vue 2, il faut qu'il passe sur Vue 3. En gros, il faut tout qu'il jette et recommence. Donc, en fait, la notion du client de se dire j'ai investi sur la qualité de code, il ne se retrouve pas forcément. Donc, ce n'est pas évident de mettre le bon curseur au bon endroit. Moi, j'ai tendance à dire quand vous faites de l'application qui va durer très longtemps, et en particulier sur tout ce qui est API et back, là, ça vaut le coup de mettre la qualité de code. Quand vous faites du front ou des choses qui sont un peu plus jetables, il faut savoir relâcher la contrainte parce que finalement, la qualité de code que vous allez mettre, vous allez la payer, mais vous n'en aurez pas forcément le retour là-dessus. C'est mon avis, ce n'est pas un avis ferme parce que ça dépend vraiment du contexte. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête.
Non, vous ne rebondirez pas sur ce sujet.
Si, non, mais globalement, c'était l'avis que j'avais de me dire que Sur l'instant T, théoriquement, on va potentiellement, ça va coûter potentiellement plus cher parce qu'on va prendre plus de temps à développer. Mais derrière, on va avoir un gain sur le long terme de se dire que si on réutilise le code plus facilement, bah, on va gagner du temps sur d'autres fonctionnalités plus tard. Et on va gagner du temps parce que potentiellement, on va avoir moins de bugs ou ce genre de choses. C'est que sur l'instant T, en effet, on perd du temps, mais sur du long terme, on va en gagner.
Ouais, mais tu vois, je te prends vraiment l'exemple de Vue 2, Vue 3. Enfin, je veux dire, c'est le gars, il est. Enfin, et c'est pas un seul exemple, on a les Angular, les machins. Tu te dis, en fait, le gars, il avait investi dans la qualité de code sur ton truc, ça sert à rien. Mmh. En fait, l'application a duré 4 ans et du coup, il va devoir la redévelopper.
Après, il a choisi le mauvais framework.
Oui, mais c'est pas si vrai que ça, en fait. Dans les technologies front, les technologies mobiles, il y a tas de techno où il n'y a pas de standard fort. Et c'est vrai que de mettre de la qualité, il ne faut pas faire de la surqualité, quoi. Enfin, c'est un rapport, alors c'est peut-être mon côté économique, mais je veux dire, c'est un rapport qui est pas terrible sur le. Sur
puis c'est pas les, que ce soit le front ou le back, c'est pas les mêmes enjeux. Dans le back, on a des enjeux beaucoup plus forts de sécurité, ouais, de performance, où la qualité de code peut clairement améliorer ça. Dans le front, il y a beaucoup moins de problèmes de performance parce que les gens ont des machines très puissantes et qu'un site, ça va pas faire planter votre PC. Ou alors, c'est que c'est plus des problèmes de performance, mais de tout le code. De la sécurité, c'est pareil. Maintenant, les frameworks, c'est eux qui, entre guillemets, portent la sécurité. On a moins de possibilités de faire des grosses bêtises parce que vous restez sur la machine du client. Vous n'êtes pas sur des serveurs avec des bases de données ou quoi. Donc, c'est vrai que il vaut, j'ai envie de dire, déjà, les applications back ont tendance à durer plus longtemps dans le temps parce que c'est des technologies qui sont plus éprouvées. Du Java qui existe depuis des vingtaines d'années maintenant, je ne sais pas exactement, mais c'est des choses qui n'ont pas bougé depuis le temps. Alors que du front, on a AngularJS qui a tout jeté il y a 5 ans, Vue 2 qui nous a refait la même, et on ne sait pas où ça va aller, surtout qu'on est sur des entreprises comme Google qui adorent jeter leur technologie, ou même toutes les grandes GAFA. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux se focaliser plus sur le back que sur le front.
Si on fait le parallèle avec tout ce qui est éco-conception, aujourd'hui, est-ce que tout va dans ce sens, est-ce que tout est conjugable?
Non, tout n'est pas conjugable. Il y a typiquement, vous ne pouvez pas avoir un code ultra performant et un code qui soit facilement maintenable et lisible. En fait, c'est un peu antinomique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un code performant et maintenable. Pour aller chercher de l'ultra performance, vous allez souvent devoir dégrader la maintenabilité. De la même manière, si vous voulez avoir un code qui soit lisible, bah, c'est pareil, vous allez dégrader un peu la performance parce que vous allez essayer de découper les choses, vous allez faire des modules, vous allez faire des choses comme ça. Et donc, ça ira moins vite que si vous faites un truc qui est tout packagé dans un gros pâté de code là-dessus. Donc non, tout n'est pas compatible. Et du coup, c'est important de se rendre compte qu'il y a des enjeux qui peuvent être divers. Par exemple, si vous voulez être crédible dans de l'éco-conception ou ce genre de choses, vous allez essayer de faire une application que vous n'allez pas être obligé de jeter tous les 10 minutes. Du coup, ça vous exclut tous les petits frameworks cool qui viennent de sortir et qui sont peut-être plus performants et plus productifs, mais qui sur le long terme ne sont pas forcément sûrs. Donc non, ce n'est pas toujours compatible. Néanmoins, dans la vraie vie de la vraie vie, 90% des optimisations que vous allez pouvoir faire en termes de code sont bénéfiques pour l'éco-conception et pour la performance et l'économie d'énergie et de tous les facteurs que vous pourriez avoir sur une application.
Bah, je pense que c'était
une très belle tirade pour conclure
ce sujet de la qualité.
Juste un petit conseil.
Encore un point de la fin.
Voilà.
Un petit conseil. Et alors là, je vais citer les équipes de Sonar, parce que j'étais au salon We Are Developer l'année dernière, on y était. Et le gars de Sonar a dit un truc que j'ai trouvé très intelligent. Il a dit, la qualité de code, quand vous commencez, c'est un cauchemar, parce que vous avez toujours un legacy. Et il disait que même eux, en interne, ils n'arrivaient pas à avoir une qualité de code parfaite. Et du coup, il disait c'est déprimant et les gens abandonnent assez rapidement. Donc, la bonne approche pour faire une qualité de code, dixit ce qui nous avait été expliqué, c'est de se dire, au lieu d'essayer de corriger tout le code legacy que vous avez, puisque vous avez des kilotonnes, essayez de vous concentrer juste sur le nouveau code qui est produit par chaque sprint par vos équipes. Et de dire, le nouveau code que je produis, il est bon et il n'embarque pas de problème de code. Et en fait, si vous faites ça sur la longue traîne, sur 24, 36 mois, et même 4 ans, très rapidement, vous vous rendez compte que vous avez augmenté statistiquement jusqu'à 90% de votre application de code. Et c'est beaucoup moins effrayant de faire ça, parce qu'en fait, du code nouveau, vous n'en produisez pas tant que ça, et mettre la qualité sur le code nouveau, ce n'est pas non plus très compliqué, puisque en plus, c'est un code que vous maîtrisez bien parce que vous êtes en train de l'écrire. Donc, allons-y doucement sur la qualité de code, doucement mais sûrement, toujours un petit peu, et je pense que c'est la meilleure approche pour obtenir un code de bonne qualité.
Ça partage ?
On valide.
Ou ça veut faire un mot de fin sur le mot de fin ?
Ouais, sur le mot de fin.
Yes, on va parler coup de cœur. Nathan, tu nous avais un petit coup de cœur à nous partager.
Oui, on parlait de qualité et intrinsèquement un peu de performance. Et généralement, quand on parle de performance, on parle de base de données. J'essaie de faire un petit lien avec le petit coup de cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'était un site internet qui s'appelle Explain Dalibo. Et l'objectif de ce site web, c'est de rendre très visuel les plans d'exécution des requêtes PostgreSQL uniquement. Et je trouve que c'est un outil qui est très pratique parce que de base, c'est pas du tout visuel les plans d'exécution quand on les lit. Et en fait, derrière, il fait également des petits résumés. Et en fait, ça permet de très vite voir dans un plan d'exécution d'une requête où est-ce qu'on perd du temps et les potentiels points d'amélioration. Et je trouve que ce site est très bien fait et très pratique lorsqu'on doit faire un peu d'optimisation de requêtes SQL.
Et il propose des améliorations ou c'est vraiment que factuel ?
Non, c'est que présentation d'informations. Okay. Il n'a pas encore son module IA qu'il a rajouté.
Ok. Non, mais j'imagine pour chaque, entre guillemets, erreur, il doit y avoir une solution simple, entre guillemets, basique, qu'il pourrait proposer. Ok.
Je sais pas, ça reste quand même assez, je veux dire, complexe comme domaine.
Merci Nathan pour ce partage.
Avec plaisir.
Bon, le coup de gueule. C'est le coup de gueule. Je vous laisse deviner qui le prend.
Camille.
Non, c'est pour moi, mais je vais en faire un mi-coup de gueule, mi-coup de cœur.
Ah.
Il m'est arrivé un problème sur mon Mac, où il s'est mis à lire l'intégralité de ce qui était sous mon curseur. Vous allez me dire, oui, il fallait désactiver VoiceOver, qui est l'utilitaire d'accessibilité. Eh bien non, ça n'était pas l'utilitaire de VoiceOver. Il y a donc deux manières sous Mac de gérer la lecture de ce qui est sur le curseur. Et du coup, j'ai passé une journée avec mon Mac qui n'arrêtait pas de lire. J'ai testé tous les tutos d'Internet jusqu'à ce qu'un collègue, Alexandre, finisse par trouver qu'il y avait une autre fonctionnalité d'accessibilité qui était lire sous le curseur.
Ah, c'est le nom.
Qui n'a rien à voir avec les autres fonctionnalités de VoiceOver, donc c'est donc assez pénible. Mais ça va me faire venir à mon petit coup de cœur que je donne bien volontiers pour les gens qui, comme moi, sont amenés à lire des spécifications, des cahiers des charges ou n'importe quelle documentation. Moi, je me suis rendu compte, et ça fait déjà quelques années que je fais ça, c'est que j'ai du mal à lire des choses qui sont assez pénibles à lire, et un cahier des charges, c'est pénible, une spécification, c'est pénible. Donc j'ai tendance à utiliser énormément la synthèse vocale pour me faire qui me lit les documents. Et du coup, dans tous vos PC et Mac, vous avez cette possibilité-là. Et du coup, je fais lire le PDF en même temps que je le regarde. Et du coup, ça me permet, par exemple, de me concentrer sur un schéma pendant qu'il me fait la lecture du texte. Et les voix sont absolument parfaites. Maintenant, ça va très bien. Et du coup, ça vous permet d'engranger l'information à deux niveaux, en même temps en train de le lire, en même temps en train de l'écouter. Et vous pouvez parcourir des PDF de 50, 60 pages très facilement.
Oh,
et de manière
faire ça. Hein.
Quoi ?
Je peux pas écouter quelque chose, me concentrer dessus et faire autre chose en même temps.
Là, par exemple, tu vois, tu lis un schéma, tu vois un schéma d'architecture et tu fais lire tout ce qui a été écrit.
Ouais, c'est sur le même sujet.
Tu expliques, ouais.
Et en fait, vous pouvez. Alors, le gros intérêt, c'est que moi, je mets la lecture en 1,1 × 5. Donc, ça veut dire qu'en fait, il lit en quasiment presque deux fois la vitesse normale. Du coup, ça permet d'engranger des PDF gigantesques et de l'entendre. Et en fait, de l'entendre, moi, j'ai une mémoire très auditive.
Ouais.
Et du coup, je me rappelle que je l'ai entendu. Du coup, ça me permet de faire ça.
Et niveau terme technique, il n'est pas à la ramasse.
Non. Franchement, ils sont vraiment. Alors, moi, j'utilise celui de Mac, mais j'imagine que sur Microsoft, il y en a un bien. Et je trouve que ça permet vraiment de digérer des grandes quantités d'informations, parce que lire sur écran, c'est assez pénible, et que c'est une bonne pratique. Enfin, je trouve que c'est une bonne pratique, je l'ai donné à 2-3 personnes qui y arrivent aussi. Donc, je vous conseille de le tenter, voilà.
Okay. Et ça peut marcher sur, des pages web,
n'importe
des choses
quoi.
Comme ça n'importe
Moi,
quoi,
je me suis confié un raccourci clavier, et du coup, dès que j'ai envie de lire un truc, je sélectionne, je fais lire.
Sélectionnes le texte que tu veux lire.
Ouais,
tu
as plusieurs manières de faire, mais moi, je fais ça.
Ok, intéressant.
Et tu parlais de synthèse vocale, mais en fait, il est capable de te faire une synthèse sur ce qu'il a lu et de se faire une synthèse
vocale. Non, alors il ne sait pas faire de résumé. Okay. Ça, il faudra un utilisateur de type AI, ChatGPT, mais ça, j'imagine qu'ils sont en train d'y réfléchir très fortement.
Il y a déjà beaucoup d'outils qui sont disponibles où tu leur donnes une vidéo.
Mais faire un résumé d'un cahier des charges, ça sert à rien.
Parce que tout est dans le
cahier des charges.
C'est une appli web. Voilà.
Ça marche. Bon, bah merci, on a eu le droit d'avoir deux coups de cœur aujourd'hui.
Et de Philippe, en plus.
Bon, merci à tous d'avoir partagé du coup vos conseils sur la qualité de code. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.
Salut, salut.
Bye bye.
Bye bye.